Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 7 novembre 2023. En direct de Washington, Idrissa Sebudia. Pour commencer les titres, Washington appelle le Rwanda et la RDC à la désescalade. Au Mali, la junte au pouvoir rejette les mises en cause de l'armée par Human Rights Watch. Au Burkina Faso, la justice ordonne la libération d'un homme enlevé par des agents du renseignement. Le régime militaire nigérien demande au Togo d'être médiateur auprès de la communauté internationale. L'ONU appelle à un cessez-le-feu urgent à Gaza, devenu un cimetière pour les enfants, selon Antonio Guterres. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé les dirigeants de la République démocratique du Congo et du Rwanda appelle à la désescalade après une recrudescence des affrontements avec les rebelles opposés à Kinshasa. Selon le département d'État, M. Blinken s'est entretenu séparément par téléphone avec les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi au sujet de la situation instable à la frontière entre les deux pays. Il a plaidé en faveur d'une solution diplomatique aux tensions entre les deux pays et a exhorté chaque partie à prendre des mesures pour désamorcer la situation, y compris le retrait des troupes de la frontière, a déclaré dans un communiqué le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Les combats se sont intensifiés depuis début octobre au nord de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, entre la rébellion du M23 et l'armée de la RDC, alliée à des groupes armés pro-gouvernementaux. Au Mali, le régime militaire a rejeté et jugé infondées les conclusions d'un récent rapport de l'ONG Human Rights Watch accusant ses soldats et des membres présumés du groupe russe Wagner d'avoir tué 40 civils dans des opérations. Eric Manirakidza.
Le ministère malien des Affaires étrangères dénonce l'approche biaisée et sensationnaliste d'un rapport selon lui qui met l'armée malienne au même rang que les groupes islamistes armés. Dans une réponse transmise hier lundi à des journalistes, Bamako fustige des allégations infondées, des affirmations gratuites, des témoignages recueillis à distance et orientés, des conclusions erronées. Le gouvernement malien dément à nouveau toute coopération avec le groupe paramilitaire russe Wagner sans le nommer. Il invoque une fois de plus un partenariat ancien d'État à État entre le Mali et la Russie. Human Rights Watch a publié la semaine passée les conclusions de ses investigations sur 5 opérations menées entre avril et septembre au Mali, soit par les djihadistes, soit par l'armée. Le ministère malien assure qu'aucun des abus évoqués par Human Rights Watch n'a été rapporté aux autorités et que l'une des opérations mentionnées a visé les groupes djihadistes sans incidence sur les civils. Le ministère répète que tous les signalements de violations graves des droits humains donnent lieu à des enquêtes et que certains soldats ont déjà été jugés. Il critique également la méthode de Human Rights Watch, notamment le fait d'interroger les témoins à distance.
Au Burkina Faso, le tribunal administratif de Ouagadougou a ordonné hier la libération de Sansa Anselme Kambou, homme d'affaires enlevé mi-septembre par des agents du renseignement. Ceci ressort d'une ordonnance rendue publique. Yakuba Ouedraogo.
Le tribunal administratif de Ouagadougou estime que l'enlèvement de M. Kambou Sansa Anselme par des agents de l'Agence nationale de renseignement est manifestement illégal et constitutif d'une grave atteinte à sa liberté d'aller et de venir. Il a enjoint l'État burkinabé à travers l'ANR de mettre immédiatement un terme à sa détention et lui permettre de regagner son domicile. Homme d'affaires à la tête d'une centrale d'achat qui vend de l'armement, Sansa Anselme Kambou a été enlevé dans la nuit du 20 septembre devant son domicile par des hommes armés qui se sont présentés comme des agents de l'ANR. Il a été conduit vers une destination inconnue selon des membres de sa famille. M. Kambou est un proche de l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie du Burkina, le lieutenant-colonel Evrard Somda, limogé début octobre, après l'arrestation de deux de ses anciens collaborateurs pour leur implication présumée dans une tentative de coup d'État. Plusieurs cas d'enlèvement ont été rapportés ces derniers mois par des sources locales à Ouagadougou. Dimanche, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples a dénoncé une réquisition massive et ciblée des citoyens critiques du pouvoir par les autorités militaires en application d'un décret de mobilisation générale pour la lutte anti-djihadiste adopté en avril dernier.
La junte militaire nigérienne demande au président togolais Fornia Singbe de jouer un rôle de facilitateur auprès de la communauté internationale, y compris le bloc ouest-africain de la CEDEAO, qui a imposé des sanctions depuis un coup d'État. Les précisions de John Linden.
Le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi, a rencontré le chef de l'État togolais Fornia Singbe à Lomé, où il a déclaré que la junte souhaitait également que le Togo se porte garant d'un accord prévoyant le retrait des troupes françaises du pays sahélien. La CEDEAO a imposé des sanctions financières sévères et fermé les frontières avec le Niger pour tenter de rétablir l'ordre constitutionnel. Modi, qui a qualifié ces sanctions de cyniques, a déclaré que le Togo avait permis à la junte nigérienne de communiquer alors que d'autres voies étaient fermées. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussé, a déclaré que son pays était prêt à contribuer au dialogue. Le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, a déclaré qu'il procédait avec prudence en ce qui concerne le Niger, en raison des inquiétudes concernant la sécurité du président déchu Bazoum. Pour l'instant, la junte propose une transition de 3 ans vers un régime civil, tandis que la CEDEAO demande le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La bande de Gaza est devenue un cimetière pour les enfants, a dénoncé le chef de l'ONU, qui a plaidé pour un cessez-le-feu urgent dans la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Une possibilité, une nouvelle fois, rejetée par le premier ministre israélien, Jacques Aristide.
Il n'y aura pas de cessez-le-feu général à Gaza sans la libération de nos otages, déclare Benjamin Netanyahou dans un entretien qu'il a accordé hier à la chaîne ABC News. Il affirme qu'Israël prendra pour une durée indéterminée la responsabilité générale de la sécurité à Gaza après la guerre. Car lorsque nous n'avons pas cette responsabilité en matière de sécurité, nous assistons à l'éruption de la terreur du Hamas, ajoute le chef du gouvernement israélien. Pour sa part, la Maison-Blanche indique que lors d'une conversation téléphonique, le président Joe Biden a évoqué avec Benjamin Netanyahou la possibilité de pauses tactiques pour fournir aux civils des opportunités de quitter en sécurité les zones de combat, s'assurer que l'aide parvient aux civils dans le besoin et permettre la potentielle libération d'otages. Le cauchemar à Gaza est plus qu'une crise humanitaire, c'est une crise de l'humanité, a dit le patron de l'ONU, Antonio Guterres. Il a également réitéré sa condamnation des actes terroristes odieux du Hamas le 7 octobre et fustigé le mouvement palestinien qui utilise les civils comme boucliers humains et continue à tirer des roquettes vers Israël sans distinction. En visite à Ankara après une tournée au Proche-Orient, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a assuré que son pays œuvrait très activement pour acheminer davantage d'aide.
Ici aux États-Unis, l'ex-président Donald Trump s'est défendu hier lundi sous serment en multipliant les invectives contre le juge et la procureure au procès civil à New York, la démocrate Letitia James, qui a engagé les poursuites qui menacent son empire immobilier. Il a qualifié le juge de très hostile et l'autre de petite politicienne. Il s'agit là du premier d'une longue série pour M. Trump qui rêve de retourner à la Maison-Blanche. Accusé d'avoir gonflé de manière colossale la valeur de ses actifs immobiliers pour séduire les banques, M. Trump s'est défendu pied à pied, niant toute fraude. C'est une chasse aux sorcières politiques, a aussi dénoncé, comme à son habitude, le candidat républicain à la présidentielle de 2024, s'opposant en victime d'une prétendue machination judiciaire digne, selon lui, de pays du tiers-monde et de république bananière. La Minute Éco, John Linden.
La production industrielle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a enregistré une légère baisse de 0,2 points de pourcentage en rythme annuel au mois de septembre 2023 comparé au mois précédent. La Banque centrale de Zambie a déclaré lundi qu'elle augmenterait à partir de la semaine prochaine le montant minimum des dépôts en monnaie locale et étrangère que les banques commerciales doivent conserver auprès du prêteur d'État dans le but de freiner la dépréciation de la monnaie locale, le kwacha. Ici aux États-Unis, le sénateur démocrate Chris Coons, l'un des principaux acteurs de la politique américaine à l'égard de l'Afrique, a déclaré que le programme AGOA devrait être prolongé de 16 ans. Des pourparlers sont en cours en vue du renouvellement de cette loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, vieille de deux décennies qui doit expirer en 2025.
Merci John. À présent, les sports. Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa. Bonjour à tous.
Débutée dimanche, la Ligue des champions féminines africaines se poursuit en Côte d'Ivoire.
Oui, les matchs de la première journée ont été bouclés hier par le groupe B, basé à San Pedro, dans le sud-ouest. Les tenantes du titre marocain de l'AS FAR ont perdu devant les Ghanéennes d'APEM d'Ankoa, 1-2. Les Équato-Guinéennes d'Ourakan et les Maliennes de l'AS Mandé se sont neutralisés 1-1. Les rencontres de la deuxième journée débutent demain dans le groupe A basé à Kourougo dans le nord. Après leur début réussi, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns jouent contre le club marocain de Sporting de Casablanca. L'Atlético FC d'Abidjan affronte les Tanzaniens de JKT Queens. Le tournoi, dont la finale est prévue le 19 novembre prochain, sert de test pour la prochaine CAN en janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire.
Ici aux États-Unis, Megan Rapinoe bat San Diego et s'offre une dernière danse.
La superstar du foot américain va disputer un dernier match samedi avec la finale du championnat américain de football féminin à San Diego en Californie après sa victoire en demi-finale dimanche. Son club de l'OL règne de Seattle a réussi à dominer sur sa pelouse le San Diego Wave FC 1-0 pour repousser de 6 jours la retraite de Megan Rapinoe, 38 ans. La double championne du monde 2015 et 2019 et son équipe ont brisé le cœur des supporters adverses.
Hyperandrogénie, l'affaire Semenya sera examinée par la Cour européenne des droits de l'homme.
La grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, sa formation suprême, a accepté hier de se pencher sur le dossier de l'athlète sud-africaine. Caster Semenya est privée de certaines courses parce qu'elle refuse un traitement pour faire baisser son taux de testostérone. La sportive sud-africaine avait remporté une bataille judiciaire de longue haleine le 11 juillet dernier quand la Cour européenne des droits de l'homme lui avait donné raison en première instance contre la Suisse, estimant que l'athlète de 32 ans était victime de discrimination. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme n'invalidait toutefois pas le règlement de World Athletics et n'ouvrait pas directement la voie à une participation de Semenya sur 800 mètres sans traitement. La réglementation actuelle sur les différences du développement sexuel, approuvée par la Fédération internationale d'athlétisme en mars 2023, reste en place, avait en effet précisé l'instance.
Merci, Yacouba.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
avec vous, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans le centre du Mali, depuis quelques jours, des réfugiés venus du Burkina Faso affluent en masse dans la ville frontalière de Koro. Il s'agit majoritairement de femmes et d'enfants qui ont fui l'insécurité dans leur village, dans des conditions très difficiles, pour se réfugier à Koro. Un reportage de Tidiani Ouedraogo.
Depuis le début de la semaine dernière, des centaines de réfugiés burkinabés trouvent refuge à Koro au Mali. Des hommes armés non identifiés auraient semé des populations des villages situés à la frontière entre le Burkina et le Mali de quitter les lieux.
Ils sont venus ce soir dans notre village pour lancer un ultimatum. On a fui pour partir dans un autre village pour continuer à Waiguia. Impossible de rejoindre Waiguia et c'est pour cette raison que nous sommes venus ici à Koro, au Mali.
Depuis le début de l'année, des localités situées le long de la frontière avec le Mali sont en proie à une vague de violence affectant la population. À pied ou à bord de moto tricycle, beaucoup sont arrivés à Koro après des jours de voyage sans avoir de quoi manger.
Depuis ce matin, je n'ai pas mangé. Dieu merci, ici, ils ont préparé le haricot. Je profite bien de ce plat, sinon j'allais mourir de faim.
C'est la période des récoltes dans ces localités. Beaucoup ont abandonné leurs champs. Une situation qui en dit long sur l'ampleur des violences. Karim Vidrago est un réfugié burkinabé à Koro.
Ils sont venus saboter les réseaux téléphoniques. Et après, ils sont rentrés dans le village, brûler les magasins. Nous sommes venus ici, les mains vides.
Des femmes et des enfants sont arrivés à Koro malades ou malnutris. C'est le cas de cet enfant malade qui vient d'arriver à Koro avec sa mère.
J'ai fui avec mon enfant qui est malade. Là-bas, il n'y a aucun centre de soins. Quand je suis arrivée ici, j'ai eu des médicaments.
À Koro, il n'y a pas de site pour les réfugiés, mais les autorités locales s'activent pour les assister.
Bon, les dispositions que nous pouvons prendre, ça, c'est de les héberger et les mettre dans les très bonnes conditions. Et l'appel que nous lançons, c'est à l'endroit des partenaires techniques, financiers et des ONG pour qu'ils puissent venir en aide à ces réfugiés, dont l'affluence continue de grandir au sein de la ville de Koro.
La ville de Koro a accueilli déjà des milliers de déplacés internes. Tidiani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, l'armée a décidé d'envoyer au front plusieurs leaders de syndicats, d'organisations de la société civile, des hommes politiques ainsi que des journalistes. Ces personnes, pour la plupart, devront au moins être sur le terrain pendant 3 mois. La majeure partie de ces leaders pense que c'est une forme de musellement. Mais pour certains analystes, c'est une disposition légale et il faut s'unir pour lutter contre le terrorisme. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Au moins une dizaine de leaders syndicaux, politiques, organisations de la société civile, journalistes, sont concernés par ces réquisitions. Ce qui autorise ces réquisitions, c'est le décret sur la mobilisation générale pris en avril dernier par le capitaine Ibrahim Traoré. Les personnes réquisitionnées pensent que c'est une manière de faire taire définitivement les voix discordantes. Docteur Daouda Diallo, coordonnateur du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés concernées par la mesure.
Ce décret est une mesure punitive, voire criminel contre des citoyens sincères et honnêtes qui apportent une critique constructive pour une meilleure marche de la nation. J'invite tout Burkinabé sincère, tout patriote qui ne se bat pas uniquement pour son ventre ou pour des intérêts ponctuels, mais pour l'avenir du pays à se mobiliser pour barrer la route à l'autocratie et à la dictature qui est en marche.
Ladji Bama, un journaliste aussi réquisitionné, juge la mesure arbitraire.
Je ne suis pas prêt à me soumettre à ces réquisitions que j'estime être suffisamment arbitraires. Je ne sais pas sur quelle base cela a été décidé. Et pour ce qui me concerne, je suis journaliste de profession, je n'ai pas été formé pour être militaire. Ce qui décide de qui va au front et sur quelle base. Et quand je regarde la liste des personnes qui sont concernées par ces réquisitions, il est clair que c'est pour mesurer des gens. Moi, je ne suis pas me soumettre à ça. Ça ne repose aucune logique.
Mais certains analystes estiment que c'est légal et l'essentiel, c'est de se mettre ensemble pour faire face au terrorisme. Idrissa Ouedraogo, conseiller en communication et analyste politique.
C'est légal, comme tout le monde le dit. Ce n'est pas ce fait seulement qui intéresse. Si c'était sur le point de vue de la légalité, on n'en parlerait pas. C'est la personnalité de ceux qui ont été appelés, qui ont été réquisitionnés, qui suscite des analyses, des controverses, ainsi de suite. Qu'est-ce qui nous permet de gagner la guerre? Est-ce que la guéguerre nous permet d'avancer? Est-ce que les bruits nous permettent d'avancer? Pour moi, c'est vraiment à chacun de voir. Chaque parole, chaque acte, est-ce que ça concourt à nous faire gagner la guerre? Après la guerre, et ça c'est mon point de vue, après la guerre, tout est possible. Ceux qui vont commettre des gaffes, après la guerre, ils vont le payer.
Ce lundi, la coalition de syndicats et d'organisations de la société civile qui envisageait organiser un meeting le 31 octobre dernier et qui n'a pas pu se tenir a dénoncé et condamné l'ensemble des réquisitions. Elle a demandé l'annulation de ces réquisitions. Depuis hier, plusieurs organisations et mouvements ont aussi condamné ces réquisitions. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Un masque fin vendu à prix d'or à Montpellier est réclamé par le Gabon. Une bataille judiciaire oppose désormais le gouvernement de transition à un couple de retraités français et un brocanteur. Ce masque, cédé aux enchères pour 4,2 millions d'euros en mars 2022, avait été acquis 6 mois plus tôt par son revendeur pour 150 euros. En attendant l'issue de cette affaire prévue le 19 décembre prochain, voici quelques réactions recueillies à Libreville par notre correspondant Ismaël Obiangze.
Selon plusieurs observateurs, l'affaire du masque fan vendu aux enchères en France cache des intentions à peine voilées de l'Occident sur les biens culturels africains. Jean-Jacques est un initié au rite traditionnel gabonais.
Il n'y a que ceux qui sont initiés qui connaissent l'importance des masques. Ces Européens veulent seulement prendre ces masques-là vraiment pour s'enrichir et connaître la culture africaine.
De passage à Libreville, en pleine bataille judiciaire entre l'État gabonais et le revendeur du masque Nguil, Stéphane Mounier, enseignant-chercheur de nationalité française, y va de son commentaire.
Peut-être aussi qu'il y a une surenchère par rapport à ça. C'est pas sûr. C'était un masque. Si c'était un masque originel, je pense qu'il ne devrait même pas être dans une collection, mais il devrait rester dans le pays déjà.
Lors de la vente conclue le 26 mars 2022, la diaspora gabonaise avait vigoureusement protesté, réclamant sa restitution à son pays d'origine. À Libreville, cette transaction est perçue comme un scandale. Evelyne Rendembeno, cadre d'administration publique.
On a réussi à mettre ce prix sur ce masque, c'est que je pense que ça en vaut la valeur. On sait qu'il y a beaucoup de sculptures de nos pays qui sont à l'étranger, peut-être le... L'État gabonais veut récupérer, ça fait partie du patrimoine national.
Bien que favorable au retour de ce masque dans son pays, Magloire, agent public de l'État, reste néanmoins sceptique sur l'issue de la procédure en cours.
Et c'est déjà une propriété de quelqu'un d'autre. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent le reconquérir? Je ne sais pas à quel prix, mais bon, ce serait souhaitable qu'il revienne chez nous. La personne qui l'a acquis, je ne pense pas qu'elle soit prête à le restituer comme ça, sans la moindre contrepartie.
En attendant le verdict du tribunal d'Alès sur la demande de sursis formulée par le gouvernement gabonais, Lloyd Labouba fait quelques propositions aux autorités de transition. Lloyd est acteur culturel.
Il faudrait vraiment faire un travail de recensement sur les reliques historiques qui ont de la valeur et surtout que les propriétaires privés puissent venir rétrocéder ou du moins se faire accompagner par les autorités de la culture lorsqu'il s'agit de pouvoir mettre en vente des objets à valeur culturelle et à valeur cultuelle.
Le masque en litige présente des scarifications traditionnelles des fonds d'une guilde. Il est réalisé dans un but rituel par la société exclusivement masculine. C'est une pièce rare qui sert à rendre justice et à chasser les sorciers. Ismaël Obionze pour VO Afrique, Libreville.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Cameroun, le secteur des industries culturelles et créatives tarde à décoller. Il est pourtant considéré comme l'un des maillons essentiels de la stratégie nationale de développement du Cameroun à l'horizon 2035. À la faveur d'une conférence interministérielle de la francophonie qui s'est tenue à Yaoundé, entrepreneurs culturels, partenaires financiers, universitaires, organismes de la société civile et l'administration ont discuté de la question. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Julta.
Avec 240 ethnies, l'entrepreneuriat culturel est une niche à emploi pour les jeunes qui veulent se lancer dans les industries créatives et culturelles au Cameroun. Mais beaucoup peinent à saisir cette aubaine malgré l'existence d'une structure de l'État qui accompagne les entrepreneurs locaux. Vandelem Kongo, sous-directeur de la facilitation de l'assistance et de la coopération à l'Agence de promotion des investissements.
Jusqu'à présent, il n'y a pas une entreprise qui relève des ICC et qui a bénéficié de l'accompagnement de l'API. On a besoin d'une entreprise formelle qui est reconnue, parce qu'on va l'accompagner sur le plan fiscal, sur le plan douanier, sur le plan administratif.
D'autres barrières à l'éclosion des industries culturelles et créatives existent au Cameroun, d'après Daniel Penda, expert en psychologie sociale et accompagnement entrepreneurial.
Si déjà vous n'êtes pas outillé, comment voulez-vous que l'entreprise que vous allez gérer puisse résister aux impacts et aux chocs? On a 80% un peu d'entreprises qui meurent avant la troisième année parce que l'entrepreneur est face à des situations de stress, de doute. Et comment faire pour qu'il soit résilient? Il faut bien évidemment qu'il y ait cet accompagnement psychologique au-delà des moyens financiers et matériels qu'on met à sa disposition.
La société civile propose des préalables pour mieux soutenir l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes et femmes dans le secteur culturel. Diane Dena, présidente d'Eden Africa.
Les jeunes qui travaillent dans les ICC, on fait les accompagner à mieux structurer, à monter leur projet, monter leur business plan, travailler sur leur business model. Et c'est ça qu'on a eu à faire déjà. Et ça, c'était une cinquantaine. Désormais, ils sont dans une démarche intentionnelle. Ce n'est plus faire pour faire, mais c'est faire, être conscient de ce qu'on fait et être conscient de ce qu'on doit produire des résultats.
Reste le nerf de la guerre, un programme pionnier baptisé « La route des chifferies », initié par la diaspora camerounaise à Nantes en France, a pu décrocher des financements auprès de divers partenaires locaux et extérieurs. Sylvain Ndiaché-Zefa, coordonnateur général de la route des chifferies.
On a une expérience dans la mobilisation et dans le plaidoyer pour avoir des financements dans le secteur du patrimoine et de la culture. Et donc et pour nous, c'était une occasion d'inviter la société civile camerounaise et de leur montrer aussi qu'il y a des opportunités.
L'administration a donné quelques pistes sur la question des financements dans les secteurs des industries culturelles et créatives. Angelbert Olomon, chef de la politique économique au ministère de l'économie.
Quand vous êtes une entreprise, vous pouvez donc permettre de négocier même en termes d'exonération fiscale et tout ça. L'État ne doit pas toujours l'argent en espèces, mais parfois en termes d'exonération de droits, de douane pour importer des équipements qui vous rendent plus compétitifs.
Les autorités précisent que les crises internes avec le conflit contre Boko Haram, la situation en zone anglophone, les impacts de la COVID-19 et de la guerre russo-ukrainienne empêchent encore au gouvernement de mobiliser les ressources suffisantes pour le secteur culturel. Yaoundé, Emmanuel Jounoutap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Firmin Koyaweda, à la console Mock Charleston. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, l'ex Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.